Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halud Mouni.
Chenni Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Fidèles auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, vous nous suivez à travers 75 radios et 3 télévisions à travers le Mali. Merci pour votre fidélité. Ce soir, le Grand Dialogue va parler de corruption en lien avec la journée des Nations Unies contre la corruption célébrée aujourd'hui à travers le monde. Nous avons 3 invités sur ce plateau. Il s'agit de Amadou Garankouyaté, universitaire coordinateur du groupe de réflexion et de la recherche sur la corruption GRRCC, qui est au téléphone. Modibo Maouma Kalou, économiste, et Souleymane Dembélé, président des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté au Mali, avait confirmé sa participation. Jusqu'à présent, nous ne le voyons pas pour le moment. Nos tentatives également pour compter un représentant du gouvernement sur le plateau sont restées vaines. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue à tous.
Le Grand Dialogue.
Lutte contre la corruption, la journée des Nations Unies contre la corruption est célébrée aujourd'hui. Modibo Maouma Makalou, quelle analyse faites-vous de la lutte contre la corruption au Mali?
Écoutez, ce n'est pas la lutte contre la corruption au Mali seulement. Je veux dire que la corruption, c'est un fléau. La corruption est néfaste, non seulement pour le développement économique, pour la croissance économique, mais pour l'équité sociale aussi. Parce que c'est une mauvaise allocation des ressources, une déperdition des ressources qui auraient pu être utilisées autrement, à améliorer le quotidien des populations. En fait, c'est un phénomène qui n'est ni national ni local. C'est un phénomène mondial. Il est d'abord national, international, mais aussi transnational. Donc c'est un phénomène vraiment très élargi et qui doit être combattu si nous voulons améliorer le quotidien des populations au jour le jour.
Mais la situation au Mali est-elle inquiétante?
Au Mali, pas plus qu'ailleurs, parce que écoutez, quand même, je vois que quand même le classement de Transparency International, qui est une ONG internationale basée à Berlin, le Mali est classé chaque année. Et vous savez qu'en 2018, ils ont déjà classé 180 pays. Et territoire. Et donc, le Mali n'est pas dans le peloton de queue, mais il a légèrement reculé. Donc, cela veut dire quand même qu'il y a des efforts à fournir pour cerner ce phénomène néfaste.
Amadou Garankouyaté, vous êtes le président, le coordinateur plutôt du groupe de réflexion et de la recherche sur la corruption. Quel est votre point de vue sur la lutte contre la corruption au Mali?
Bon, on va dire qu'elle se fait de façon passable pour le moment, compte tenu de l'ampleur du phénomène. Avec l'avènement de M. Moulali au niveau du ministère de la Justice, j'espère qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont commencé, mais on attend de voir la suite. Pour le moment, je ne suis pas tellement rassuré, mais on va donner du temps à M. Koulibaly et au procureur du pôle économique, M. Kassouvé, pour voir ce qui va se passer après. Pour le moment, moi, je ne suis pas très, très satisfait de la démarche adoptée.
Pourquoi n'êtes-vous pas très, très satisfait, rassuré?
J'ai pas compris.
Vous dites que vous n'êtes pas très très satisfait de la démarche. Pourquoi?
Alors, je vous explique. Vous savez, toute lutte sérieuse contre la corruption, théoriquement, dans un pays, il y a une démarche à suivre. On ne commence jamais par le mini-fretting, c'est-à-dire par les petits poissons. Et dans le cas précis du Mali, avec M. Koulibaly, ça a commencé par Bakary Togola. Et Bakary Togola, à ce que je sache, n'est ni un poids lourd politique, ni un poids lourd de la société civile. C'est juste un bouffon qui fait rire les gens. Et en arrêtant, on s'attendait à ce que ça fasse beaucoup de tapage médiatique. Je crois que c'est surtout cet objectif-là qui était visé. Malika et son procureur ont attendu à ce qu'il soit obligé par la population, le peuple, à s'intéresser à certains gros poissons, du genre Adama Sangaré. Et même là, si vous regardez, le motif qui fait qu'Adama Sangaré aujourd'hui est interpellé et arrêté, ce motif-là, ça n'a rien à voir avec les fonciers. Il n'y a aucune trace de foncier. Il est interpellé pour un problème relatif à un problème de rectification qui va de la rue de l'aéroport à Koumouba. Et la mairie centrale est seulement le maître d'ouvrage, mais le maître d'ouvrage délégué est l'EDM. Et Malick Chey, aussi bien Kassongé, qui a demandé à a toutes les chances par rapport à ce problème d'être blanchi. Alors, donc, tout ça me fait croire, penser que nous n'avons pas encore sérieusement lutté la lutte contre la corruption au Mali. Vous prenez par exemple le cas de l'agent présidentiel, ou des cas, la présidence est le maître d'ouvrage. C'est vrai qu'au Mali, les textes ne permettent pas qu'on arrête un président à négocier ses fonctions, mais on peut quand même l'écouter. La première personne à être écoutée dans le cas de l'achat fondulé d'avions présidentiels, c'est le détail lui-même, personne d'autre. Alors, quand on va arriver à cela, là, en ce moment, on pourra comprendre que la lutte véritable contre la corruption au Mali a commencé. Pour le moment, elle ne rassure pas.
D'accord. Êtes-vous rassuré, vous, docteur Mourouba Maoumakal?
Bon, moi, je suis pas juriste, je ne suis pas au fait de ce qui se passe au sein de la justice, surtout dans des dossiers qui sont en cours. Je m'efforcerai de ne pas commenter cela.
Et je rappelle que nous avons invité un représentant du gouvernement, notamment le ministère de la Justice, mais ils n'ont pas souhaité réagir.
Oui, mais moi, j'aimerais juste parler sur un plan plus général. En tout cas, sur le plan économique, nous pensons que la corruption est vraiment néfaste et qu'il faut la combattre. Mais pour cela, il faut une stratégie. Et il faut rappeler aussi que dans notre pays, depuis 1960, tous les présidents qui ont quand même eu à diriger notre pays ont mené une lutte contre la corruption, avec plus ou moins de succès. Mais il faut que ce soit basé sur une stratégie, un plan d'action, que le cap soit fixé et surtout que ce ne soit pas une chasse aux sorcières. Mais vous savez, la lutte contre la corruption, elle peut être menée de deux façons. Elle peut être de manière...
Justement, juste pour permettre à cet auditeur qui a posé cette question, qui demande est-ce pourquoi la lutte contre la corruption ne s'intéresse qu'au petit calibre et non au gros calibre.
Mais écoutez, moi, mon problème, qu'est-ce que c'est que... Je pense que la lutte contre la corruption, pour combattre la corruption, il faut renforcer l'état de droit et la bonne gouvernance. L'état de droit, ça veut dire quoi? Il faut respecter d'abord les normes, qu'il y ait une hiérarchie des normes juridiques, c'est-à-dire qu'on commence par la loi fondamentale, descendre au niveau des lois, ensuite des décrets, etc. Mais aussi qu'il y ait la séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Mais le troisième pilier d'un état de droit, c'est le respect des droits fondamentaux. Personne n'est au-dessus de la loi, personne n'est en dessous de la loi. Donc cette lutte contre la corruption ne doit pas cibler seulement certains individus. C'est pour cela que j'ai parlé de stratégie. Quand on parle de stratégie, ça veut dire que, je vais dire que c'est un contexte général, mais avec des cibles bien précises et qu'il y a une démarche quand même qui est objective et non subjective, basée sur des personnes. Etc.
Et qui doit élaborer cette stratégie?
Mais c'est l'État.
L'État. Donc aujourd'hui, quand vous voyez l'évolution de la situation, est-ce que vous pensez que les bonnes mesures ou est-ce qu'il y a cette volonté politique de lutter réellement contre la corruption?
Bien sûr qu'il y a la volonté. Et vous savez qu'il y a des personnalités très importantes qui ont été arrêtées. Et cela ne peut se faire sans volonté politique. Vous savez comment notre pays marche, comment tous les pays marchent, parce que je vous ai dit, ce n'est pas notre pays seulement. Il ne faut pas cantonner notre pays seulement dans cette position. C'est tous les pays du monde, des plus riches aux plus pauvres. Transparency International a fait ce classement des pays les moins corrompus. Le pays le moins corrompu, c'est un pays scandinave qui s'appelle le Danemark. Ils sont numéro un. Et le pays le plus corrompu, c'est un pays très fragile d'Afrique que je ne nommerai pas.
Donc, cela veut dire quand même que, en tout cas, les pays en Afrique au sud du Sahara ne sont pas très bien classés, même si certains sont en train de faire des efforts pour améliorer.
Mais s'il y a la volonté classement. Politique, comme vous le dites, pourquoi n'arrive-t-on pas à trouver ces bonnes stratégies que vous souhaitez ?
Mais je vous ai dit d'abord, Sahara, c'est un problème institutionnel, je veux dire, c'est des problèmes de gouvernance. Et je reviens, je suis désolé de revenir encore sur l'ancrage de notre pays, institutionnel de notre pays. Nous avons pris la constitution de la 5e République de 1958 en France et nous l'avons copiée et nous nous sommes retrouvés avec une constitution qui ne marche pas très bien par rapport au contexte de notre pays. Parce que la séparation des pouvoirs doit être faite. Mais malheureusement, vous vous retrouvez avec un président de la République qui est non seulement le chef suprême des armées, mais qui aussi est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc vous voyez, et si tant que la séparation des pouvoirs n'est pas effective, il y aura toujours un pouvoir qui va peser plus que l'autre. Et dans la constitution de la 5e République, le pouvoir exécutif est vraiment léonin. Et certains l'ont même, Mitterrand à l'époque quand il était dans l'opposition politique en France, avait appelé Monsieur le général de Gaulle un monarque républicain. Mais lui-même, quand il est venu au pouvoir, il n'a pas beaucoup changé la constitution, il a utilisé les mêmes moyens, parce que vraiment, ça donne beaucoup de pouvoir à l'exécutif.
D'accord. Et on va revenir sur les stratégies à adopter. Et donc, je vous rappelle que l'essentiel des questions pour ce débat sont posées par les internautes sur notre page Facebook Studio Tamani Fondation Hirondelle. Nous allons commencer par celle de Youssouf Maïga, Amadou Garankouyaté, qui demande « Pour lutter efficacement contre la corruption, il faut d'abord que les responsables acceptent la déclaration de leurs biens avant leur prise de fonction et à la fin aussi. Qu'en pensez-vous ? »
Oui, il faut aller dans ce sens. D'ailleurs, nous avons une loi dessus, la loi numéro 14-15 du 27 mai 2014, portant prévention et répression de l'enrichissement illicite. Nous avons au niveau de l'article 3, tous ceux qui sont assujettis à cette loi. C'est-à-dire toute personne physique, civile ou militaire, dépositaire de l'autorité publique, tout agent de l'État, et toute personne qui agit pour le compte de la puissance publique ou avec les moyens ou les ressources de celle-ci. Alors, vous voyez que tout le monde est dedans, pratiquement, les députés, les ministres, les fonctionnaires, les juges eux-mêmes, les magistrats, tout le monde doit... faire sa déclaration de biens.
Mais est-ce que tout le monde le fait?
Alors, c'est dissuasif, c'est très important. Mais cette mesure ne serait efficace que lorsque on accepte de rendre public la déclaration de biens. Parce que le premier rôle du contrôle doit revenir au peuple, à la population. Et vous savez que la déclaration est faite au niveau de la Cour suprême. Et c'est... tout un secret qui existe autour de cette déclaration de biens. Elle n'est pas publiée. Elle n'est connue que par les gens de la Cour suprême et les agents de l'ECLEI. Personne d'autre n'a accès à cela. Alors, la déclaration de biens, elle n'est efficace que lorsque elle est connue du public, qui doit jouer son rôle de citoyen, qui doit contrôler. Il ne peut contrôler s'il est dans l'ignorance de ces informations-là.
Alors, si ces biens ne sont pas publiés, est-ce que vous pensez que la volonté politique, elle est réelle de lutter contre la corruption?
Non, la volonté politique n'est pas là, ça on le sait. Elle n'est pas là. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui ressemble un tout petit peu à la diversion. Est-ce que M. Koulibaly... Parce qu'eux-mêmes ont fait les déclarations de biens. Nous devons le savoir. Parce qu'ils sont aussi concernés. Les magistrats sont concernés. Il y a eu beaucoup d'études dont la conclusion classe effectivement les magistrats en première position des catégories les plus corrompues au Mali. Alors, une lutte présentement, une vraie lutte contre la corruption au Mali ne peut pas être commencé sans les magistrats. Il faut mettre ça dedans. Alors, on voit que c'est surtout les maires, quelques opérateurs économiques, d'accord. Mais on se rappelle que la Banque mondiale et le FMI ont exigé le départ du gouvernement de deux ministres en 2014, et toujours par rapport à la question de l'achat d'avions présidentiels. C'était pour qu'il puisse se rendre disponible et être écouté au niveau de la justice. Il s'agit de Ben Barka, il s'agit de Lubin, mais où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, moi, si vraiment on veut lutter contre la corruption, il faut le faire de la façon la plus sérieuse. Les stratégies sont connues. Elles existent dans les livres, les meilleures stratégies, théoriquement et empiriquement. Nous sommes informés des cas empiriques nous avons tous les moyens aujourd'hui de nous occuper sérieusement. C'est là.
D'accord, monsieur Kouyaté, monsieur Makalou, vous avez répondu à la question de Adama Ongoïba qui demandait, peut-on affirmer aujourd'hui que la justice malienne est indépendante? Vous demandez même la séparation des pouvoirs. Alors Youssouf Maïga demande pourquoi le président de la République ne rend pas la justice indépendante pour l'aider dans sa lutte.
Mais c'est pas au président de rendre la justice indépendante, c'est la loi fondamentale, la constitution de février 1992.
Pourquoi n'est-ce pas le cas?
Mais parce qu'on a copié la constitution de la 5e République française de 1958, qui avait été faite sur mesure par une commission pour le général de Gaulle, pour son retour au pouvoir en France. Et donc c'est là que la séparation des pouvoirs n'est pas très affirmée. Et malheureusement, dans notre pays, bon, au moins en France, il y a des institutions qui sont solides. Alors que nous sommes dans le processus de mise en place d'institutions.
Dans ce cas, est-ce que vous n'allez pas rejoindre M. Kouyaté qui estime que la volonté politique n'est pas réelle?
Non, la volonté politique, vous avez entendu que quand même il y a eu plusieurs, depuis le président Alpha Omar Konaré, depuis l'avènement de la démocratie, tous les présidents ont essayé de quand même de réviser la constitution pour l'adapter un peu au contexte de notre pays, et puis aussi tirer les enseignements de ce qui a marché et de ce qui a moins bien marché. Mais je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'enfant du bain. Vous savez, la corruption, elle est multiforme. C'est un terme générique, mais qui comprend beaucoup de choses. Vous avez les dessous de table, vous avez les détournements de fonds publics, vous avez le trafic d'influence, vous avez la dissimulation et le blanchiment des capitaux. Mais la déclaration des biens ne peut pas couvrir tout ça. La déclaration des biens peut être effective, efficace, je veux dire, si vous occupez un poste public. Mais la corruption, elle affecte vous et moi, ça, le citoyen lambda, ceux qui sont dans le secteur privé, ceux qui sont dans le secteur public, elle affecte tout le monde. Même la personne qui se rend au centre de santé, qui va à l'école, etc., dans la circulation, elle affecte tout le monde.
Les chiffres sont-ils connus par rapport à ce que le Mali perd à cause de la corruption?
Pardon?
Est-ce que les chiffres sont connus par rapport à ce que le Mali perd?
Les chiffres sont faramineux. Les chiffres sont stratosphériques. La Banque mondiale a estimé qu'il y a entre 1 000 milliards de dollars, je dis bien 1 000 milliards de dollars, entre 1 000 milliards de dollars et 2 000 milliards de dollars de coûts d'opportunité perdus, l'argent qui se perd dans la corruption, dans le monde. Et vous savez ce que cela représente? Cela représente le budget annuel des 34 pays les plus industrialisés au monde réunis ensemble.
Est-ce que vous avez des chiffres concernant le Mali uniquement?
Ah, le Mali, bon, je n'ai pas d'idée précise. Mais je soupçonne qu'il y a des chiffres assez importants parce que quand vous regardez notre balance des paiements, nous avons quand même, nous exportons beaucoup de coton, beaucoup d'or, et l'or c'est 70% de nos recettes. Mais je vous dis, je vous affirme, je le répète, que la production d'or au Mali n'est pas connue. C'est-à-dire avec précision. Ce secteur, ce sont les multinationales qui le gèrent, ce sont ces multinationales qui extraient notre or et qui l'envoient à l'extérieur, qui l'exportent.
Les autorités sont-elles au courant?
Elles sont au courant.
Et pourquoi elles ne réagissent
pas? Mais c'est les conventions minières.
Donc elles sont des
contrats
avec cela?
Non, ce sont des contrats léonins. Mais il y a des normes quand même internationales. Moi-même, j'ai quand même travaillé dans une compagnie minière, BHP Minerals, qui est l'une des plus grosses compagnies minières au monde, qui gérait à l'époque Siama, la mine d'or de Siama. C'est un problème, parce que quand vous avez autant de ressources qui sortent, et puis l'or, ce n'est que 20 000 personnes qui travaillent dans ce secteur minier.
Et on va y revenir tout de suite. Monsieur Kouyaté, il y a Dr Ali Tunkara qui demande dans ce cas, comment lutter efficacement contre la corruption si l'élite politique elle-même n'est pas redevable et exemplaire vis-à-vis des citoyens? Ce sont ses mots.
Justement, il va falloir que la population agisse. Et ça va être difficile, effectivement, que une vraie lutte contre la corruption puisse se faire sans qu'il y ait véritablement la volonté publique. Mais c'est à la population de prendre en main son destin et d'obliger les politiques, les autorités à agir. Dans beaucoup de pays, ça se fait comme ça. En Europe, ce sont les populations qui exigent des autorités politiques, un bon comportement. Donc la population doit jouer son rôle. Mais il faudra aussi mettre en place de bonnes stratégies de lutte contre la corruption. Ce n'est pas que le bâton, il y a la carotte également. Il faut commencer par approvisionner la fonction publique en cadre autre pour le prix des agents.
D'accord. Monsieur Kouyaté, vous avez parlé de la responsabilité de l'État dans cette lutte contre la corruption. Sur les réseaux sociaux, il y a Djibi Raoul Dansoko qui souligne votre responsabilité en tant que représentant de la société civile. Il dit, je crois que ces organisations, celles de Souleymane Dembélé et celles de Amadou Garan Kouyaté que vous êtes, existent depuis quelques années. Pourquoi nous n'avons pas entendu des interpellations ni des auditions qu'aujourd'hui avec la naissance du PCC? C'est sa question. Il demande, il dit que votre organisation qui est le groupe de réflexion et de la recherche sur la corruption GRCC fait partie des organisations qui existent depuis plusieurs années au Mali. Pourquoi on n'a pas entendu d'interpellation ni d'audition jusqu'aujourd'hui avec la naissance du PCC?
Oui, non, si la personne suit régulièrement ou lit régulièrement dans la presse, Je me rends compte que depuis 2004, le groupe de réflexion et de recherche sur la corruption m'a cessé de dénoncer. Moi, j'ai fait particulièrement des dizaines et des dizaines d'articles dans la presse qui ont été publiés. J'ai dénoncé beaucoup de cas de la corruption. Sauf que tout seul, on ne peut rien. Quand on donne des informations, non, vous, les journalistes, quand vous donnez des informations avérées dans la presse, mais si le peuple ne réagit pas, ça n'a pas de sens.
Mais au-delà des dénonciations et des communiqués qui sont diffusés, est-ce que vous avez interpellé, par exemple, au niveau de la justice?
On a interpellé au niveau de la justice, mais publiquement, on a fait des interpellations à travers des conférences de presse, à travers des débats politiques, alors de prévoir la fuite. Alors c'est aux magistrats et dans beaucoup de pays du monde, c'est comme ça. Une fois qu'on a des informations dans les journaux, les magistrats se saisissent ces informations pour ouvrir des enquêtes. Ça, c'est le rôle du magistrat. Nous donnons des informations avec de prévoir la fuite. Nous faisons nos enquêtes, nous donnons des informations avec de prévoir la fuite. Les informations qui sont publiées dans la presse.
D'accord. Monsieur Makalou, plusieurs organisations de la société civile existent aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre la corruption. Est-ce que vous pensez que cette société civile joue efficacement son rôle dans cette lutte contre la corruption?
Mais vous savez, je crois que quand on est en démocratie, la société civile est un contre-pouvoir important. En condition que cette société civile ne soit pas alimentaire. Qu'elle soit objective dans ses actions et dans ce qu'elle est transparente dans tout ce qu'elle entreprend. Parce que vous savez, la justice, c'est quand même l'état de droit. J'insiste que l'état de droit est un élément essentiel pour la prévention, tant au niveau de la prévention que de la répression de la corruption. Tant que nous n'aurons pas établi cet état de droit pour dire que personne n'est au-dessus de la loi et que personne n'est en dessous de la loi et que nous avons une justice, une séparation des pouvoirs, et que les droits fondamentaux des uns et des autres, de tous les citoyens, seront respectés, en même temps que la hiérarchie des normes juridiques, nous allons avoir des problèmes. Parce que cela va... Ce qui mine, ce qui amène la corruption, c'est ce qui affaiblit l'État aussi. Parce que quand la gouvernance n'est pas bonne, elle touche non seulement les institutions, elle les affaiblit, mais aussi au niveau des ressources humaines. Vous voyez, ça, c'est la promotion de la médiocratie. Parce que les gens les moins compétents peuvent prétendre aux mêmes choses que les personnes les plus compétentes quand il y a de la, quand il y a de la corruption. C'est pour cela que ce fléau doit être combattu, et à tous les niveaux. Ce n'est pas l'affaire des dirigeants seulement, c'est l'affaire de vous et de moi, de la société civile, de tout le monde, puisque chacun de nous peut en être victime. Donc vraiment, je pense que nous devons former des coalitions partenariales, hein, mais dans la transparence, pour quand même... Et si vous prenez même notre code des impôts, le code des impôts, il y a le train de vie qui doit déterminer si vous, votre salaire est connu et que vous avez un train de vie qui n'est pas conforme à ce que votre salaire entre. Vous savez, il y a des procès très importants aujourd'hui de deux anciens fils de dirigeants de pays africains, notamment celui de l'Angola et de Guinée équatoriale, qui sont devant les cours et juridictions aujourd'hui pour des biens mal, soi-disant mal acquis. Donc, si votre salaire est connu et que vous faites, que vous menez un train de vie ou que vous faites des dépenses qui sont proportionnellement en non-conformité avec ce que vous gagnez, ben, on doit s'intéresser à vous. La justice, en tout cas, doit s'intéresser à vous pour savoir, M. Touré, mais comment est-ce que vous financez ce train de vie alors que vous gagnez que ça? On sait que vous n'avez pas hérité beaucoup d'argent, etc., etc.
D'accord.
Mais cela demande de la transparence.
D'accord.
Et un état de droit.
Le ministère de la Justice aurait pu répondre à cette question s'il avait accepté notre invitation, mais nous allons vous adresser, à vous, M. Kouyaté, cette question de Mandos Daou. Il demande, est-ce que quand une personne est reconnue coupable d'un détournement de fonds ou d'une autre forme de corruption au Mali, cette personne rend-il l'argent qu'il a volé à l'État ou bien est-ce une partie seulement qu'il paye?
On n'a pas d'informations par rapport à ces choses-là. Normalement, quand une personne est arrêtée pour cause de corruption, elle doit rembourser, elle doit aussi faire de la prison. Mais nous n'avons pas réellement d'informations par rapport à tout ça, des informations qui existent, qui ne sont pas souvent crédibles. Bon, mais logiquement, quand une personne est reconnue coupable de détournement de fonds, elle doit rembourser, mais elle doit aussi faire de la prison.
D'accord. Et à Mahamadou Sanogo qui demande, la corruption devenue un phénomène légal pour les Maliens au regard de nos comportements quotidiens, pense-t-il que cette lutte, il parle de vous les analystes, est-ce que vous pensez que cette lutte de corruption déclenchée maintenant ira jusqu'au bout?
Est-ce que cette lutte de corruption ira?
Cette lutte engagée par les autorités, on a vu quelques arrestations qui ont eu lieu à travers le pays. Est-ce que vous pensez que cette lutte qui a été entamée ira jusqu'au bout? C'est sa question.
Bon, je ne comprends pas seulement, mais je pense que vous demandez si cette lutte ira jusqu'au bout. C'est bien ça.
Si cette lutte ira jusqu'au bout, c'est bien ça.
Non, moi, je ne suis pas, comme j'ai eu à vous le dire au fil de l'émission, je ne suis pas encore très, très convaincu par la démarche entreprise.
D'accord. Mourou Maoumakalou, vous êtes-vous optimiste? Est-ce que vous pensez que...
Je suis optimiste pour plusieurs raisons. D'abord, ce ministre de la Justice, je pense qu'il a de la méthode. Quand il est venu... Et il a demandé à travailler avec une équipe. Et lors du Conseil supérieur de la magistrature, il a pu obtenir cette équipe. En plus, il a obtenu de la part des plus hautes autorités une loi de programmation de la justice. C'est-à-dire qu'on lui a donné aussi des moyens financiers et les ressources nécessaires sur 5 ans pour mener la stratégie qu'il veut mener.
D'accord. Vous estimez qu'il a...
Et cela est vraiment réconfortant.
Oui.
Mais bon,
espérons. Vous estimez qu'il a de la méthode, mais M. Kouyaté regrette qu'il n'ait pas lui-même déclaré ses biens.
Qui le sait? C'est parce que c'est à la Cour suprême qu'on
mais
dépose.
Mais le public, hein. Le Malien lambda n'a pas cette
peut-être
information.
Peut-être qu'il faudra poser la question au ministre. Peut-être on va
je l'ai rappelé encore, ils n'ont pas accepté d'être sur ce plateau, de se faire représenter. Une autre question de Mahamadou Sanogo. En ce sens, verrons-nous le bout du tunnel? La lutte saine contre la corruption pourra-t-elle toucher le sommet de l'État, M. Kouyaté?
Il faut pas se dire, c'est-à-dire que la lutte contre la corruption, ça se fait avec les bâtons, comme avec la carte. Ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui, les deux formes de corruption sont du Somalie, la grande et la petite. Et c'est la petite qui est vraiment très répandue. Et là, c'est vraiment avec la carte. Là, c'est des problèmes de salaire, il faut vraiment revoir ça. Mais la grande action, là, c'est la corruption des décideurs. Et là, avec les bâtons, avec les sanctions, et on peut ramener à un niveau très bas cette forme de corruption. C'est vraiment sanctionné. Mais la petite corruption, elle est liée directement à la pauvreté. Quand on prend le chemin d'un grand économiste à Wadi, c'est l'avidité qui est à la base de la grande corruption, qui elle est à la base de la pauvreté, et c'est la pauvreté qui engendre la petite corruption. Donc la petite corruption, on ne peut pas lutter contre avec les bâtons. Il faut vraiment la carotte, mettre aux gens, les gens au travail, revoir le niveau de salaire, de revenus. Ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'efforts. C'est seulement avec la combinaison de différentes solutions qu'on peut effectivement arriver à mettre fin plus ou moins à ramener à un taux raisonnable la partie politique.
Vous avez demandé de revoir les salaires. Il y a Amadoun Traoré qui demande, peut-on être incorruptible avec un salaire de misère?
C'est très difficile. Il faut être sincère, théoriquement. Il faut être sincère. Lorsqu'on n'arrive pas à vivre décemment ou à satisfaire le minimum de ses besoins vitaux avec ce que l'on gagne à la sueur du front, alors la tentation est grande.
D'accord. Les personnes les plus corrompues sont-elles plutôt généralement les moins payées ou les plus payées?
Ça, je ne sais pas. Ça dépend de chacun d'entre nous. Mais comme M. Kouyaté l'a dit, effectivement, c'est le pouvoir discrétionnaire qui est à la base de la petite corruption. Et cela, nous l'avions bien compris à un moment donné, puisque nous avons travaillé sur la loi d'orientation pour les usagers, pour améliorer les relations entre les usagers et l'administration. Vous savez, il y a une phase de prévention, une phase de répression. Mais je pense qu'au Mali, nous sommes déjà rentrés dans la phase de répression au niveau de la lutte contre la corruption. Je pense que aussi, il va falloir quand même faire extrêmement attention aux droits humains. Parce que vous voyez dans la presse, on a arrêté quelqu'un, on dit déjà il a détourné. Mais chacun d'entre nous, quand il y a l'état de droit qui prévaut, chacun d'entre nous est présumé innocent jusqu'à ce que nous passions devant un juge, et que nous soyons jugés et condamnés. La présomption d'innocence est essentielle. Il va falloir qu'on fasse attention à ne pas écrire des gros titres sur les gens alors que leur culpabilité n'a pas encore été prouvée.
Une information indépendante, impartiale et professionnelle. Voilà. Alors, il y a M. Barima Bouaré d'Iveron qui vous adresse une question à vous, M. Makalou. Il dit, ma question s'adresse à M. Makalou. Moi, en tant que stagiaire au contrôle financier de Nyonou, j'aimerais savoir pourquoi les contrôleurs financiers ne font pas le contrôle physique des commandes publiques effectuées par les collectivités territoriales.
Mais ça fait partie de leur tâche. Ce n'est même pas ça seulement, c'est la Direction générale des marchés publics. Même quand elle donne son avis a priori, a posteriori, elle doit faire le contrôle aussi. Oui. Et cela est très important. Mais en fait, vous savez, c'est la redevabilité. En anglais, on appelle ça accountability. Comme je l'ai dit encore, je reviens, l'état de droit, c'est basé sur le respect des normes juridiques, etc. Quand c'est le contraire de l'arbitraire, d'un pouvoir arbitraire. Mais il va falloir que nous fassions de sorte que les gens ne puissent pas être tentés par la corruption. Et cela demande pas seulement, quand on parle de... Vous savez que pour les hauts fonctionnaires, généralement, les hauts fonctionnaires ne vivent pas seulement de leur salaire. Il y a ce qu'on appelle les traitements. C'est ce qui leur permet de tenir leur rang. Et cela, c'est la responsabilité de l'État aussi. Il ne faut pas demander à quelqu'un de gérer des milliards alors qu'il n'arrive pas à subvenir à son quotidien.
Est-ce possible, quand beaucoup de Maliens pensent aujourd'hui que la corruption a été institutionnalisée, culturalisée au Mali?
Mais ce n'est pas normal parce que l'État fait... C'est ça la contradiction. Vous regardez le budget de l'État, 80% des recettes fiscales vont dans le fonctionnement de l'État. Et quand on parle de fonctionnement, c'est généralement les salaires qui sont prééminents dans cette catégorie. Donc, où les gens sont... En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il va falloir plus d'efficience, en tout cas par rapport à ces allocations, pour déterminer où cet argent va. 80% des recettes fiscales vont dans le fonctionnement de notre État. Ce n'est pas normal. Parce que nous avons besoin d'investir plus pour pouvoir quand même que la machine puisse décoller et que nous puissions... récolter les fruits de cette croissance et la redistribuer équitablement au sein de la population. C'est cela qui va permettre d'améliorer le quotidien des Maliens.
D'accord. L'objectif du Grand Dialogue, c'est permettre aux Maliens lambda de comprendre les différents sujets, les enjeux et les solutions autour de cette question. Et Monsieur Kouyaté, il y a Boubacar Tira qui dit « Tant qu'on ne touche pas au fameux article qui couvre des hommes politiques dans leurs fonctions au Mali, on ne peut pas y arriver. » Alors, la question c'est « Est-ce qu'il y a au Mali un article qui couvre des hommes politiques dans leurs fonctions?
Un article qui couvre les hommes politiques?
Oui, dans le cadre de la... qui les protège contre la corruption, à faire la corruption plutôt.
Non, il y a un article qui protège, sauf que les magistrats ou les tribunaux ne jouent pas simplement son rôle. Aujourd'hui, on peut par exemple demander à ce que l'immunité d'un député soit levée pour qu'il soit écouté par la justice. Qu'est-ce qui peut empêcher un magistrat de le faire? C'est vrai que les élus ont une certaine protection, mais qui peut être levée si la volonté politique est là et si les magistrats jouent effectivement leur rôle. Beaucoup de députés aujourd'hui sont cités dans le cas de pratiques corruptrices, bon, on peut les écouter, on peut demander à ce que leur immunité soit levée, ça se fait sous d'autres cieux.
D'accord. Vous estimez ne pas être optimiste quant à la suite des actions de lutte contre la corruption engagées au Mali. Et il y a Adama Mongoiba qui vous adresse une question à vous, dont plutôt c'était à Souleymane Dembélé, mais je vous la pose à vous. Quelles seront leurs solutions, vous, la société civile, en cas d'arrêt de cette initiative prise par le pôle économique pour lutter contre la corruption?
Oui, la société civile doit continuer à se battre. À dénoncer jusqu'à ce que elle soit prise au sérieux par le pouvoir politique. Nous avons tous les moyens démocratiques à notre disposition. Nous devrions en profiter. Cela passe par la dénonciation, cela passe par les manifestations politiques, les marches, tout. Nous devrons jouer notre rôle et que les dirigeants ou les autres politiques sachent qu'elles ont face à elles des gens ou des personnes décidées à exiger de la transparence. Mais tant qu'ils savent que la société civile est aussi ça, il faut le dire, une bonne partie de la société civile aussi corrompue, c'est tout ça que la société civile aussi ne joue pas véritablement son rôle. Donc il va falloir que tout cela. Et tout cela change, et c'est un rôle que le peuple doit pouvoir jouer de la façon la plus sérieuse. Il faut qu'on prenne conscience de tous les dangers de la corruption et se mettre à lutter contre cette pratique-là.
D'accord. Que deviennent les rapports du vérificateur général au Mali? Est-ce qu'il y a un suivi?
Il y a un problème avec le vérificateur général. Vous savez, moi. Et il y a ce qu'on appelle le vérificateur du Canada. Il rend ses rapports au Congrès, au Parlement. Le Parlement qui supervise l'action gouvernementale. Mais ici, le rapport est soumis au président de la République. Mais nous avons trop de structures de contrôle. Il y a assez de rapports. Et ces rapports, pour la plupart, dorment dans les tiroirs. Mais je pense que en tout cas, d'après ce que j'ai appris à travers la presse, certains faits remontent à cause des délais de prescription. Ils ont commencé par des faits qui sont antérieurs, hein, qui vont vers la prescription. Mmh. Donc certaines personnes apparemment ont été interpellées par rapport à des faits qui étaient reprochés il y a 8-9 ans, etc. à peu près.
Excusez-moi, mais malgré cela, vous pensez que la volonté politique, elle est réelle?
Elle est là. Mais moi, parce que vous savez, si vous voyez la personnalité des personnes qui, en tout cas, ont été interpellées, mmh, ou qui sont mises en cause, je pense que vous ne pouvez pas douter de la volonté politique. Et pour moi, la première des choses, c'était le fait que le ministre de la Justice ait pu bénéficier d'une loi d'orientation au niveau de la justice. Il n'y a pas plus grande volonté politique que ça. Maintenant, est-ce que le ministre, parce que le ministre, en fait, il est quand même... il couvre la chancellerie, mais par rapport aux autres, à son corps, est-ce que... Parce que nous sommes tous des individus avec nos forces et nos faiblesses et notre propre caractère. Est-ce que les gens adhèrent à cette lutte? Est-ce que cette société civile a décidé d'accompagner ceux qui sont en train de mener cette lutte? Bon, c'est des questions essentielles parce que nous sommes en démocratie. Et en démocratie, normalement avec la séparation des pouvoirs, je pense que la société civile doit montrer quand même, dans la transparence, montrer qu'elle appuie les autorités si elles sont sur le droit chemin.
Vous avez l'habitude de parler des flux illicites. De quoi s'agit-il?
Ah ça, les flux illicites, ça c'est quelque chose... Vous allez beaucoup entendre parler de corruption, mais très peu des flux illicites. Nous avions eu à travailler au niveau de la Commission de l'Union africaine à un moment donné sur ce sujet. Et vous savez que les flux illicites constituent la majorité des fonds qui quittent notre continent de manière... Ça concerne surtout l'Afrique. Les flux, c'est-à-dire c'est de l'argent qui quitte illégalement nos pays. Et ce sont les multinationales qui sont à la base de cela. Les compagnies minières, les compagnies de télécom, les grosses compagnies, qui ne payent pas leur dû et qui amènent toutes ces ressources en dehors de notre pays. Alors que quand la production a lieu quelque part, c'est là-bas que vous devez payer vos taxes. Et c'est un problème quand même assez important. Et il y a eu une étude assez importante entre 1970 et 2008. Il est estimé qu'il y a près de 1800 milliards de dollars qui ont été extraits du continent, frauduleusement du continent africain, vers d'autres cieux, notamment les paradis.
Et les gouvernants sont au courant de ça?
Je vous ai dit, au Mali, la plupart des multinationales sont déclaratifs.
D'accord. Alors, M. Kouyaté, la lutte contre la corruption enseignera-t-elle une nouvelle morale aux citoyens corrupteurs afin de contribuer efficacement à la lutte engagée par le pouvoir judiciaire? C'est la question de Youssouf Tiemogo Sogodogo.
Je m'espère. En tout cas, nous n'avons pas d'autre choix que d'espérer que les Maliens s'engageront davantage dans le cadre de cette lutte contre la corruption. Nous ne pouvons pas faire autrement. Et maintenant, faire que ça, nous organiser, parce que c'est une pratique qui n'est dans l'intérêt de personne. Elle a des conséquences désastreuses sur le quotidien de chacun de nous. Et chacun a intérêt à ce que à s'engager afin de mettre fin à la corruption.
D'accord. Et Ahmed Sekou Diallo a publié sur la page Facebook de Studio Tamani « La corruption ne passera pas par moi, tous ensemble contre la corruption ». Est-ce que vous pensez que c'est possible au Mali, Mouro Mahoumakabé?
Bien sûr que c'est possible, mais bon, c'est pas facile. Mais c'est quand même avec les bonnes intentions et vraiment la bonne volonté, je crois qu'on peut y arriver.
Merci beaucoup, Mouribo Mahoumakalou. Vous êtes économiste. Et Amadou Garankouyaté, universitaire, coordinateur du groupe de réflexion et de la recherche sur la corruption GRRC. Je rappelle que Souleymane Dembélé, qui avait confirmé sa participation, n'est pas venu et nos tentatives pour compter un représentant du gouvernement sur ce plateau sont restées vaines. À la régie vidéo et audio, Gagné Kanté et Mamadou Ouattara, je suis Mohamedou Touré. Merci à tous les auditeurs qui ont posé des questions sur les réseaux sociaux et nous vous encourageons, vous autres, à le faire également. Studio Tamani, c'est s'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halou Dumondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.